Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ici Mathieu Noël et je frissonne d'extase à l'idée de passer deux heures en votre compagnie pour revisiter l'histoire en mode détente, aux côtés de celui avec qui on forme un duo qui n'est pas sans en rappeler un autre.
Et moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit.
Qui fait le gros, qui fait le petit, ça reste à définir. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour, mais ça c'est évident à côté de vous, tout le monde fait gros et petit. Oui, c'est toujours un bonheur de vous retrouver pour Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Au programme, chaque après-midi, vous le savez maintenant, trois personnages a priori très différents, mais étrangement qui ont un point en commun.
Et cet après-midi, Stéphane, hommage aux losers. Ou plutôt à ceux qui y sont presque arrivés. Ils étaient bien partis, on y a cru, mais ils ont fini deuxième dans l'ombre de celui que l'histoire a retenu.
Oui, le premier.
Vous suivez, Stéphane, vous trouvez très vif aujourd'hui.
Oui, alors l'archétype de l'éternel deuxième en France, c'est évidemment le cycliste Raymond Poulidor.
Ah, poupou.
Mais des poupous, des Poulidor, l'histoire en compte d'autres. Aujourd'hui, on vous raconte les destins d'Alexandre Graham Bell, qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas l'inventeur du téléphone.
Mais
il
non.
est arrivé deuxième. Buzz Aldrin, il a fait le buzz, lui. Tout le monde a vu qu'il était arrivé deuxième sur la Lune.
Oui, et pire, selon le protocole initial d'Apollo 11, c'est lui qui devait être le premier homme à fouler le sol lunaire. Mais contrairement à ce qu'on a raconté par la suite, il n'était pas du tout rancunier. Hein, quand on lui a annoncé que finalement ce serait Armstrong, il l'a hyper bien pris.
C'était mort quand même. Je vais lui désintégrer la gueule, moi.
Oui.
Pendant que je me crève le cul.
Oui. Oui. Oui, oui, il n'était pas très content.
Oui. Quant à vous, Mathieu, vous avez toujours le chic pour décoter un troisième personnage. Évidemment, contemporain.
Oui.
Moins mort que les miens. Aujourd'hui, quel deuxième vous avez choisi?
Un deuxième qui doit en avoir gros sur la patate car il a longtemps été premier. Ça doit vraiment être très très dur pour Bill Gates qui n'est plus, Stéphane, que le deuxième homme le plus riche du monde. Heureusement, la trêve hivernale arrive et ses proprios ne pourront pas l'expulser. C'est déjà ça.
Oui, vous l'avez compris. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on revisite l'histoire, toute l'histoire. Eux arrivent en premier, deuxième et troisième, mais quoi qu'il en soit, ils sont tous là.
Ils sont beaux.
Elle est toujours première au quiz, et première aussi, en tout cas la seule, pour nous entraîner en cachette dans l'intimité de l'histoire à la découverte des petits secrets des grands de ce monde. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Et alors, vous qui êtes de fin lettré, ne pouvez ignorer que Proust s'intéressa beaucoup au-dessous de la ceinture.
Ah oui?
Alors, aujourd'hui, j'évoque pour vous un ouvrage méconnu de ce génie de la littérature.
Un ouvrage un petit peu coquin.
Ah oui. Je ne vous dis que ça.
Ah, ça nous intéresse beaucoup. Nous, dès que c'est en dessous de la... Non, pardon. Mathieu,
vous trahissez, Stéphane.
Alors, bonjour, David Castello-Lopez.
Bonjour.
Vous remontez pour nous aux origines, souvent étonnantes, d'un objet de notre quotidien, d'une invention, d'une pratique. Et aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un type de porte qui me fait peur depuis l'enfance, parce que c'est précisément très désagréable d'y arriver en deuxième. Et ce sont les portes-tambours, vous voyez, qu'on appelle aussi les portes tournantes.
Oui.
Bah, on croit toujours qu'il y a de la place, et du
non.
coup, et non. Et en fait, on rentre à deux, et en fait, on est obligé de faire cette petite danse très gênante devant la personne qui est devant soi, parce qu'on est coincé entre la porte. Voilà, bah, c'est les origines de ça dont je vais vous parler.
Votre vie doit être vraiment très compliquée, j'imagine.
C'est pas facile.
Chaque chose du quotidien vous pose un problème.
Les sont très grandes.
Et avec nous également Olivier Pouls, notre spécialiste gastronomie. Nous savourons l'histoire de la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a au menu, Olivier?
Ben aujourd'hui, pas du solide, mais du liquide, les amis.
Vous êtes très fort sur le liquide.
Ouais. Là aussi, vous savez, lui, c'est les portes-tambours. Et moi, je bois une bouteille, je me dis, tiens, je vais en faire une chronique.
La Saint-Yor, la Vitelle, la
Malvie,
qu'est-ce que vous avez choisi?
Je vais vous parler d'un des plus célèbres vignobles français, le Château Neuf du Pape, dont deux hommes, en fait, ont contribué à la légende.
C'est
Clément
5, non?
Mais ne déplorez pas sa chronique, nous verrons ça
demande.
En deuxième heure.
Mais c'est pas sûr.
Ah, c'est pas sûr, voilà.
Peut-être que vous êtes mal informé.
Teasing.
Et n'oubliez pas le quiz, Stéphane. Vous vous souvenez là avec cette séquence tragicomique où chaque jour nos auditeurs réalisent que vous n'êtes pas si fortiche que ça en histoire dès lors qu'on vous retire vos fiches. Mais commençons cette spéciale deuxième avec celui qui est toujours premier dans l'ordre de passage de notre émission, en tout cas, peut-être aussi dans notre cœur, David Castello-Lopez.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre. Deux heures pour se cultiver sans non plus risquer la méningite.
Bon, malheureux.
Et on commence comme chaque après-midi par cette chronique qui nous révèle l'origine parfois insolite d'un objet, d'une pratique. Et avec vous, David Castello-Lopez, eh bien, une chronique menée tambour battant, si je puis dire.
Tout à fait.
Alors, on vient de l'évoquer à l'introduction, les portes-tambours aujourd'hui. Hein. Les portes-tambours, ce sont ces portes qu'on trouve généralement dans les bâtiments publics et dont on a peur qu'elles nous tuent, soit parce qu'elles nous, nous écrasent, soit parce qu'elles nous font vivre un moment très gênant. Quand on y rentre en compagnie de quelqu'un qu'on ne connaît pas, je le disais, et que c'est trop petit, et du coup, on est obligé de faire ces petits pas de danse ridicules pour ne pas rentrer dans la personne devant jusqu'à être délivré au moment où on entre dans le bâtiment. C'est des moments très gênants. Mais en même temps, je dois dire que moi, j'aime un petit peu bien les portes-tambours parce que quand je suis dedans, j'ai l'impression d'être une cacahuète dans un de ces distributeurs de cacahuètes où il faut tourner une petite molette, vous voyez, pour qu'elle tombe. Ces trucs qu'on voit dans les anciens bars.
Il y a des gens qui ont des fantasmes encore plus barrés que vous, quand même. Hein. Être une petite
ça
cacahuète.
Ça n'existe plus, les distributeurs de cacahuètes avec molettes.
Ça existe beaucoup moins, sauf un petit peu dans des bars un peu en région. Hein, j'allais dire en province, en région. Et oui, parce que ces distributeurs, ils fonctionnent exactement sur le même principe, à une exception près, c'est que, en ce qui me concerne, j'ai le choix de prendre la porte tambour ou pas, alors que la cacahuète, elle, y est contrainte par la gravité, ce qui me fait un petit peu de peine pour elle. Alors les portes tambours, ça fait peur certes, mais c'est quand même super pratique parce que ce sont les seules portes qui sont à la fois toujours ouvertes et toujours fermées, ce qui permet de combiner les avantages d'une porte ouverte, à savoir laisser entrer les gens dans les endroits, et les avantages d'une porte fermée, à savoir ne pas laisser entrer les courants d'air de merde.
C'est vrai que c'est génial.
Mais la question, bien sûr, c'est qui les a inventés? Je sais que je suis le seul à me la poser, mais je me la pose quand même. Et bien en fait, ça s'est fait en deux temps. Dans un premier temps, il y a un monsieur allemand qui s'appelle Bockacker et qui a inventé en 1881 un brevet pour, je cite, « eine Tür ohne Luftzug », ce qui veut dire en français « une porte sans courant d'air ».
Ah, donc c'était vraiment la fonction première, d'être ouvert sans courant d'air.
Sans courant d'air, aussi sans la neige, l'hiver, etc. Mais celui qui a vraiment fait entrer cette invention dans la vie moderne, c'est un monsieur américain qui s'appelle Theophilus Van Cannel, d'origine suisse, comme vous Mathieu.
On remarque toujours que c'est les Allemands qui ont les idées, mais ensuite c'est les Américains qui déposent le brevet, qui font la maille.
Et qui a installé la première porte-tambour moderne à Philadelphie dans les années 1880. Il a reçu un prix pour son invention, et à partir de là, ces portes ont été installées partout, et elles sont devenues une sorte de symbole de la modernité. Sauf que, en fait, les gens ne les utilisent pas beaucoup. Et on le sait parce qu'il y a eu deux études menées dans les années 2000 au MIT et à Columbia. Vous voyez que je suis pas le seul à m'y intéresser.
Il y a quand même des mecs qui ont fait une thèse.
Voilà, exactement. Et qui ont montré que quand les gens avaient le choix entre une porte battante et une porte tambour, ils prenaient la porte tambour qu'en moyenne une fois sur quatre. Et oui, évidemment, parce que comme je le disais en introduction, la porte tambour, ça fait peur. Alors on pourrait se dire, on s'en fout, hein, faut ce qu'ils veulent les gens, hein, c'est pas grave. Et c'est vrai, sauf que non, parce que la porte tambour a un avantage crucial et qui devient de plus en plus crucial à mesure que le temps passe, c'est que c'est super écologique.
Pourquoi ?
Eh bien oui, parce que les portes tambours, dans les portes tambours, il y a vachement moins d'air qui entre dans les bâtiments et vachement moins d'air qui en sort.
D'accord.
Donc l'immeuble l'hiver se refroidit moins et on a moins besoin de le chauffer. Et en été, on perd moins du bon air conditionné qui est à l'intérieur. Vous voyez ? Mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu encourageant, c'est que les mêmes chercheurs, ils ont découvert que si on mettait un panneau qui disait en gros « Eh les gars, s'il vous plaît, utilisez la porte tambour parce que c'est vachement mieux pour la planète », eh bien la proportion de gens qui l'utilisaient était multipliée par 3 et parfois même par 10. Après, hein, y a toujours l'option du bâtiment d'Europe 1 qui a une porte tambour. Et c'est tout. Voilà. Du coup, on est obligé.
Non. Il y a une porte à côté qui n'est pas tambour.
Mais on peut la prendre vraiment.
Alors peut-être qu'elle est fermée en ce moment, mais il y a eu un temps où il y avait les deux. Et c'est vrai, je dois dire, je n'avais pas conscience que je faisais un geste contre la planète, mais je prenais souvent la porte plus rapide, la porte pas tambour, la porte normale.
Ah, mais d'accord. Mais
honte à moi.
Peut-être qu'on peut la prendre. Il me semble que maintenant on peut
plus. Non, maintenant je peux pas avec le Covid. Peut-être à la Covid, maintenant on est obligé de prendre la porte tambour.
C'est une
parce qu'on la touche pas.
On
c'est ça qui est bien, c'est ça. Qu'elles sont électrisées.
C'est vrai, c'est ça.
Électrisées.
Mais finalement, c'est une petite dictature.
Électrifiée, oui, parce qu'électrisée, c'est vous qui m'électrisez, Stéphane.
C'est une petite dictature de la porte tambour, mais comme c'est au service du bien, c'est pas grave.
En tout cas, j'ai appris plein de choses. Merci David Castello-Lopez, bravo.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui raconte l'histoire sans se la raconter.
Oui Stéphane, 2 heures pour découvrir 3 personnages qui n'auraient jamais dû se croiser. Et pourtant, ils sont ensemble aujourd'hui. Leur point commun, ils ont tous fini 2e. Certains, ça s'est vu, comme Buzz Aldrin. D'autres étaient 2e, mais on les a pris pour les premiers. C'est le cas de notre premier personnage du jour. Stéphane vous raconte l'histoire d'Alexander Graham Bell.
Historiquement Vôtre. Le récit.
Oui Mathieu, aujourd'hui comme hier, il n'est pas toujours facile de dire exactement qui a inventé quoi et qui était le premier. Les chercheurs sont souvent plusieurs à travailler en même temps sur des projets voisins et c'est parfois délicat de savoir qui franchit en premier une étape décisive. C'est le cas de l'avion par exemple. Est-ce que c'est le français Clément Ader ou plutôt deux Américains, les frères Wright, qui l'ont inventé ?
On continue de se disputer aujourd'hui encore sur cette question.
Bon, heureusement, pour notre émission, tout est clair. C'est moi qui ai eu l'idée de cette émission qui mélange un peu histoire, humour, tout ça, une passée de sexe. C'est moi qui ai eu l'idée, quoi. Voilà.
Ah ben non, on se projette, c'est mon idée, Mathieu.
On vérifiera le brevet, Stéphane. Enchaînez.
Oui, si vous voulez. Bon, en tout cas, il y a parfois des inventions pour lesquelles c'est plus clair, ou en tout cas, on croit que c'est plus clair. Si on parle du téléphone, par exemple, il y a des chances pour que le nom de son inventeur vous vienne immédiatement, mon cher Mathieu.
Vous ne me dites rien, Stéphane. Graham Bell, bien sûr.
Exactement. Alexander Graham Bell.
En même temps, on le dit depuis le début de l'émission. Okay.
C'est vrai. Mérite. Mais je vais vous dire, pourtant, ce n'est pas si simple. Au milieu du 19e siècle, beaucoup de chercheurs essayent de trouver le moyen de transmettre le son à distance, un peu comme on arrive à envoyer des messages écrits grâce au télégraphe. Un peu partout dans le monde, on cherche à mettre au point un télégraphe qui parle, autrement dit, un téléphone capable de transmettre la voix humaine. Et c'est le scientifique écossais émigré aux États-Unis et enseignant dans une école de sourds-muets, Alexander Graham Bell donc, qui à l'âge de 29 ans a mis au point le premier téléphone. Certains savent même que ça s'est joué à quelques heures avec un autre inventeur, l'américain Elisha Gray. Les deux hommes ont en effet déposé une demande de brevet le même jour, le 14 février 1876.
Tiens, c'était la Saint-Valentin.
Et pourtant, ça n'a pas franchement fait naître une histoire d'amour entre les deux hommes. Loin de là. Et pour cause. Après tout, celui qui invente le téléphone le premier, c'est celui qui a le plus de chances d'en tirer une véritable fortune. Après 10 années de plaintes, de procès, d'expertises, d'appels, pas téléphoniques, et de recours, les tribunaux finissent par trancher. Pour eux, ce n'est pas Gray, mais bien Bell, qui a gagné le droit d'exploiter son brevet, le numéro 174-4657. Un brevet qui a été enregistré 3 petites heures avant celui de son concurrent, Elisha Gray. Pendant que les avocats commençaient tout juste à s'étriper, Graham Bell, lui, avait décidé de continuer. Le 10 mars 1876, un de ses assistants entend la première phrase jamais prononcée au téléphone « Venez, Watson, j'ai besoin de vous ». L'année suivante, Alexander Graham Bell détient une large partie des parts de la toute nouvelle compagnie qui porte son nom, l'American Bell Company. Il se retrouve millionnaire à 35 ans.
Comme vous ?
Non, non, hélas, de quoi voir venir, vous me direz. Et pouvoir se consacrer à ses autres travaux de recherche dans un peu tous les domaines.
Alors à ce stade, ôtez-moi d'un doute, Stéphane. Vous avez bien saisi que le fil rouge de l'émission consiste à parler des personnes qui sont arrivées deuxième, pas première.
Je vous reconnais bien là, Mathieu. Toujours rigoureux, finement observateur. Mais j'ai tout à fait suivi votre consigne. Figurez-vous qu'il y a un coup de théâtre.
Ah.
Un plot twist, comme disent nos amis américains.
Plot twist, oui, ça sonne bien dans votre bouche.
C'est désormais avéré. Graham Bell n'a pas la paternité de l'invention du téléphone. D'ailleurs, des gens qui ont contesté cette paternité, il y en a eu beaucoup. En 18 ans seulement, l'entreprise fondée par Bell a fait face à 587 procès, dont 5 sont allés jusqu'à la Cour suprême. L'entreprise les a tous gagnés. Mais en 2002, soit 126 ans après le dépôt du brevet de Bell, la Chambre des représentants a pris une décision marquante. Pour les élus américains, non seulement Graham Bell n'a probablement pas inventé le téléphone tout seul, mais il avait bien 20 ans de retard sur un autre immigré italien, celui-là largement oublié, alors que ce sont bien ses travaux à lui qui ont fini par changer le monde.
Allô ? Oui, alors attendez, je vous reprends dans un instant.
Je me désolidarise de ce gag.
16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Stéphane, vous vous êtes interrompu dans votre récit après nous avoir révélé que pour l'invention du téléphone, Graham Bell a en fait été doublé par un Italien inconnu au bataillon.
Oui, absolument, Mathieu. Cet Italien, c'est Antonio Meucci, un Florentin bien plus âgé que Graham Bell, puisqu'il est né presque 40 ans avant lui, en 1808. Antonio Meucci est un technicien et un bricoleur de génie, un grand curieux aussi, toujours à imaginer de nouvelles inventions. Et c'est à Cuba, en travaillant sur la possibilité de soigner certaines maladies grâce à des chocs électriques, qu'il découvre que le son peut être transmis sous forme d'impulsions électriques à travers des fils de cuivre. Meucci sent qu'il tient là quelque chose d'important. Le problème, c'est qu'il est pauvre, ce malheureux Meucci. Il n'a même pas les 250 dollars qui lui permettraient de protéger ses travaux grâce à un brevet.
Il dépose alors en 1871, et pour seulement $10, ce qu'on appelle un caveat, un mot qui veut dire « attention » en latin. C'est un sous-brevet en quelque sorte. Ce moyen de se protéger pour une courte durée, un an seulement, en prévenant la communauté scientifique qu'on s'apprête à déposer à court terme un brevet sur une invention précise. Et cet objet, c'est un mécanisme qu'il baptise télétrophono. Meucci décide d'envoyer ses travaux de recherche et son dernier prototype à la Western Union Telegraph Company. Il réclame aussi un rendez-vous avec les dirigeants de la société, un rendez-vous qu'il n'obtiendra jamais. En revanche, devinez qui utilise l'un des laboratoires de la Western Union Telegraph Company à ce moment-là ?
Ne me dites pas que c'est Graham Bell, Stéphane.
Et si, exactement. Soyons francs, Mathieu, et très précis. On ne sait pas si Bell a eu accès au prototype de Meucci.
Ça sent mauvais quand même. Hein.
Mais ce qu'on sait, en revanche, c'est que quand Meucci a demandé à récupérer son matériel en 1874, 2 ans avant le dépôt du brevet de Bell, on lui a répondu « Oh là là, pas de chance, on ne sait pas où il est ». Puis alors on a perdu toutes vos notes aussi. Tiens,
comme de par hasard.
Meucci est dans une telle détresse financière qu'il n'a plus les $10 nécessaires pour renouveler son caveat. Et l'année suivante, Bell dépose son brevet.
Mais il n'a pas porté plainte à un moment, ce Meucci ?
Mais si !
Ah !
Et il a failli gagner.
Mais ne le grondez pas !
Sa plainte fait partie des 5 qui sont arrivés jusque sur le bureau de la Cour suprême en 1889. Mais voyez-vous, Meucci meurt la même année, à 81 ans, avant que les juges rendent leur verdict, ce qui éteint la procédure. Après son décès, il aura fallu attendre 113 ans pour que la Chambre des représentants reconnaisse enfin le rôle déterminant de Meucci dans la mise au point du téléphone. En 2002, les élus américains ont officiellement reconnu que si Meucci avait été capable de payer les $10 de frais pour maintenir la promesse de brevet après 1874, aucun brevet n'aurait pu être délivré à Bell. Autrement dit, même s'il reste considéré comme l'inventeur du téléphone, Bell est bel et bien arrivé deuxième.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour parler de Graham Bell, il est la preuve que le téléphone est une invention formidable. On l'a appelé, il a répondu tout de suite à notre appel, il est venu en studio. Bonjour Denis Gutleben.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci Denis, vous êtes historien au CNRS, spécialiste de l'histoire des sciences et de la recherche scientifique, auteur de la fabuleuse histoire des inventions chez Dunod. Pourquoi retient-on davantage le nom de Graham Bell pour l'invention du téléphone plutôt que les autres? Pourquoi on ne parle jamais de, alors évidemment, Elisha Gray et surtout de cet Antonio Meucci?
Qui avait quand même 20 ans d'avance.
Oui, tout à fait. Mais en revanche, Bell avait déjà le droit pour lui. C'est-à-dire que, comme vous l'avez rappelé, il a déposé quand même ce brevet. Il a été le premier à le faire, même s'il y avait ce fameux caveat qui était précédemment déposé par Meucci. Malgré tout, eh bien, au regard de la loi, au regard des procès qui ont suivi quand même, il a gagné. D'autant plus, et ça vous l'avez rappelé aussi, qu'il n'a pu que gagner à partir de 1889, puisque l'opposant venait de décéder. Oui. Il y a une autre raison aussi, c'est que justement en raison de ce décès de son opposant, finalement il a pu réécrire un peu son histoire, et Graham Bell. Il a vécu jusqu'en 1922, donc pendant 30 ans, il a pu se forger cette histoire, rappeler les conditions de sa découverte. Oui. Finalement, ça
l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs.
Presque toujours. Ouais. C'est pour ça qu'on a des historiens qui permettent après un petit peu de rectifier
et de rendre hommage à Meucci. Est-ce qu'on peut dire qu'Alexander Graham Bell avait aussi une longueur d'avance parce qu'il était prédestiné, il avait un avenir tout dessiné. Petit-fils d'un spécialiste des mécanismes du langage, fils d'un chercheur en phonétique acoustique, sa mère Eliza Gray souffre de troubles de l'audition. Enfin, peut-être qu'il a réécrit l'histoire, mais tout lui était servi sur un plateau finalement.
Si vous m'aviez demandé à l'époque, au début des années 1870, de dresser un tiercé, je l'aurais quand même placé dernier Graham Bell, parce que en effet, ça semble le prédestiner, ce contexte familial, mais malgré tout, il n'a pas encore vraiment les compétences, et notamment les compétences en matière d'électricité. C'est un très bon physiologiste de la parole, très certainement, mais en tout cas pour l'électricité, Meucci est bien plus brillant, et puis Elisha Gray bien plus encore, d'autant plus qu'il est financé par la Western Union et il a les moyens de faire ses
travaux. Mais alors attendez, ça accrédite quand même la thèse d'un Graham Bell qui pille un peu le travail de quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'imaginais, comme on l'a raconté, j'imaginais que c'était trois brutes en technique, tout ça, qui se tiraient la bourre. Mais peut-être que Graham Bell, si vous dites qu'il était moins fort techniquement, peut-être qu'il a vraiment utilisé le prototype de Meucci, tout simplement.
Ça a aussi pu jouer en sa faveur, c'est-à-dire que Pour prendre rien que l'exemple d'Elisha Gray, lui était payé par la Western Union pour améliorer le télégraphe à l'époque. C'est-à-dire qu'il était vraiment concentré à fond sur ce travail et pour lui, une invention comme le téléphone, en tout cas voilà, diffuser la voix humaine, c'était quelque chose de très secondaire, surtout qu'on n'en voyait pas vraiment l'intérêt à l'époque. Donc ce fait d'être un petit peu un outsider du point de vue technique, ça a pu au contraire le servir.
Alors, moi je suis très ému par l'histoire de Meucci. Je ne comprends pas, il a une invention comme ça incroyable et il n'arrive pas à trouver des financeurs, puisque lui-même est pauvre, on l'a rappelé. Personne ne croit dans son invention et n'accepte de financer le brevet. Parce que c'est l'époque 19e siècle où tous les jours on déposait des brevets, puisque c'est, vous le racontez dans votre livre, il y a une effervescence.
Oui, qu'est-ce qui pourrait être plus important que transmettre la voix, enfin je sais pas, ça paraissait pas du tout un enjeu important.
Ça vous le dites
oui,
a posteriori.
C'est vrai. Oui,
mais sur le coup, ça semblait pas du tout important, le télégraphe le semblait bien davantage, parce que ça laissait des traces écrites en plus, et donc c'était beaucoup plus utile. On voyait davantage le téléphone comme une sorte de curiosité scientifique, quelque chose un peu pour permettre aux femmes de bavarder, enfin il y a beaucoup de textes autour de ça,
oui.
C'était vraiment des textes assez forts à l'époque, mais très, très macho, comme on en a plein. Heureusement, tout cela a beaucoup changé aujourd'hui. Ouais. Meucci, en revanche, il a quand même été premier dans un domaine, c'était aussi la poisse. C'est-à-dire que la poisse l'a poursuivi. Elle a poursuivi tout au long de sa vie. Enfin, pas au début de sa vie, parce que il a plutôt bien gagné sa vie en Italie, puis à Cuba, pour travailler pour le théâtre, mécanicien de théâtre. Mais dès qu'il arrive aux États-Unis, alors lui, le rêve américain, c'est il passe complètement à côté. Il lance des entreprises pour fabriquer des bougies, ça marche pas, il se lance dans le brassage de la bière, ça marche pas non plus. Enfin, il est un peu poursuivi par ça, il est complètement ruiné et en effet, ça coûte à l'époque $10 de déposer un caveat, ça coûte $250 de déposer un brevet. Et il a toutes les peines du monde à réunir ces fameux $10.
Quand vous pensez qu'il a inventé le téléphone et qu'aujourd'hui on en est à t'es où ?
Oui, t'es où, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, Denis Gutleben. Je rappelle votre livre, La fabuleuse histoire des inventions, dans lequel vous racontez plein d'histoires absolument passionnantes. L'invention du télescope, de la fusée, des jeux vidéo ou encore de la catapulte. C'est génial, je vous le conseille.
Merci.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre. Continue Mathieu avec une rubrique toujours, je le sais, vous trépignez d'impatience, c'est très attendu.
Oui Stéphane, la nature humaine est ainsi faite, au-delà de l'histoire avec un grand H, on est tous friands d'anecdotes intimes. Eh bien, la séquence qui arrive nous permet chaque jour de nous immiscer dans la sphère privée de ceux qui ont fait l'histoire. Un peu, chers auditeurs, comme si vous pouviez surprendre ce qu'on se raconte avec Stéphane hors antenne. Heureusement, c'est pas le cas.
Oui, je suis allé au Louvre ce week-end avec mon fils là.
Et alors ?
Il n'y avait personne. C'était mais fabuleux, tu rentres là-dedans comme dans un moulin.
Ça a quelques avantages, le Covid.
Oui, finalement.
Bref, Clémentine Fortier-Keltenbach est avec nous. Vous aussi, vous aimez porter à notre connaissance des faits qui n'auraient jamais dû arriver jusqu'à nos oreilles.
Ah oui, aujourd'hui, c'est une chronique absolument torride.
Oh là, on se prépare.
Oui, annoncé que j'allais évoquer un ouvrage de Proust inconnu du grand public et que seuls connaissent.
Proust.
Voici le titre de ce livre. De l'intérêt de l'examen radiologique après injection de l'ipiodol dans le diagnostic des métrorragies. Alors qu'il est signé Proust.
Il est signé Proust.
Ce livre est loin d'être
Marcel.
Curieux parce que c'est loin d'être un succès éditorial, mais sans doute en effet, Stéphane, parce qu'il ne s'agit pas d'un roman de Marcel Proust, mais d'un ouvrage médical de son frère cadet Robert, né 2 ans après lui en 1873. À l'exploration des tréfonds de l'âme humaine pratiquée par son aîné, Robert a en effet préféré celle des prostates et des vessies. Au lycée Condorcet, où les deux frères sont élèves, Robert se montre particulièrement doué pour les sciences. Il décide donc de faire médecine comme son père, grand hygiéniste, conseiller du gouvernement en matière d'épidémie. Robert devient interne des hôpitaux à 20 ans et agrégé de médecine à 31. Et comme chirurgien, il va participer en 1901 à la première ablation de la prostate par voie périnéale jamais effectuée en France. Bon, alors, vous voyez que vous êtes potentiellement concernés tous les deux. Alors, ne faites pas les mijaurés.
Moi, j'ai une priorité, là, je serai premier.
Ne faites pas les mijaurés, on parle bien sans embâge de la prostate du général de Gaulle. Alors, vous n'allez pas jouer les
pudibons. Vous connaissez la phrase de Clémenceau, hein. Il y a deux choses dont un homme peut se passer, la présidence de la République et la prostate.
Ah,
sacré Clément, il a une phrase pour tout.
Pour tout, oui.
Alors, notre Robert, il est devenu dans les années 30 le grand spécialiste français de l'urologie. Et il va donner son nom, non pas à un style, mais à un symptôme, dit signe de Proust. Tension du cul-de-sac de Douglas en cas de grossesse extra-utérine. Mais bien sûr, je ne vous apprends rien.
Non, évidemment. Il était doué, le petit Robert.
Alors, au physique, les deux frères n'ont pas grand-chose à voir. Si vous avez déjà vu des photos d'eux, il était très beau, Robert, hein, enfant. Sur leurs photos d'enfant, autant il paraît en pleine santé, autant Marcel semble fragile, chétif. Ses fréquentes crises d'asthme l'épuisent littéralement. Le printemps, le grand air, tout lui est interdit. Il doit se retrancher dans son fumoir, non pas pour y fumer le cigare, mais pour y faire des fumigations, parce qu'il a des difficultés respiratoires. Évidemment, il en vit son frère cadet, si brillant, si beau, si déterminé. Il faisait de si bonnes études, le vénard, pendant que moi, avec ma santé intermittente, je piétinais. Alors qu'il cite tous les membres de sa famille dans son œuvre, Marcel n'y mentionne jamais Albert et se présente même comme un fils unique dans certains chapitres de la recherche. Jalousie. Bien au contraire, plaident certains critiques, Marcel aime tant son frère qu'il en fait le marquis de Saint-Loup, personnage central de la recherche du temps perdu. Après la mort de Marcel en 1922, c'est au travail acharné d'Albert sur les carnets et les notes dactylographiées de son frère que l'on doit la parution, entre autres, d'Albertine disparue en 1925 et du temps retrouvé en 1927. La survivance de tout ce qui avait été était si total en lui que nous tous qui l'aimions, nous savions que nous pouvions l'y retrouver comme en un sanctuaire. Une bien jolie phrase, non ? Paradis, c'est du Proust, du Robert Proust.
Du Robert Proust.
Réhabilitons
oui, le deuxième Proust.
Robert Proust. une plongée de l'histoire qui nous a amené jusqu'à la prostate. C'est vraiment une première.
Hein, je vous avais promis de l'intime. Ah, oui,
on est allé vraiment tout au fond. Ouais. Merci beaucoup. Merci
alors,
beaucoup,
bon,
Clémentine.
Clémentine reste avec nous, évidemment, parce qu'il y a le moment tant attendu par Mathieu.
Oui, ce moment sadico-comique que vous connaissez, où, dépouillé de vos fiches, Stéphane vous a affronté courageusement, mais souvent en vain, l'érudition sidérante de Clémentine. Burn to be alive, notre quiz arrive.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, 2 heures pour renouer avec la joie de vivre après une journée de travail, pour apprendre en s'amusant, en testant vos connaissances et surtout celles dramatiquement lacunaires de celui dont c'est pourtant censé être le métier, Stéphane Bern.
C'est diffamation.
Oui, c'est l'heure de jouer à Bern to be alive, notre quiz. Alors, première question, toujours pour vous Stéphane. On se souvient de Elliot Ness, le fameux policier fédéral qui a lutté contre Al Capone durant la prohibition où l'alcool était interdit. Il était tellement incorruptible qu'il a même fait faire de la prison à son propre cousin. Vrai ou faux, Elliot Ness?
J'ai bien connu son cousin et effectivement, il lui a reproché de ne pas avoir épargné sa famille. Et oui, c'est vrai, il a fait de la prison.
Oui, alors vérifions.
Vous avez perdu.
Oh, étonnant. Une mauvaise réponse de Stéphane Maire. Ça, c'est surprenant. Alors là, vraiment, cher auditeur, vous devez
pardon,
être...
Mais... Oui. Comment voulez-vous que je sache?
Mais parce qu'il s'est passé quelque chose avec Elliot Ness. Il a lutté contre la prohibition, il a dû démissionner suite à quoi? Un accident de voiture dû à l'alcool.
Oui.
Et oui.
Bah oui, on est toujours pris par là où on a fauté.
Bah voilà.
Oui. Non, mais c'est vrai, les gens, par exemple, qui donnent les professeurs de vertu, ils se font toujours, aux États-Unis, ils se font toujours pincer sur l'histoire de meurtre.
C'est vrai.
Ceux qui, les plus conservateurs, on les retrouve toujours au lit avec quelqu'un, avec une maîtresse.
C'est vrai, ça marche aussi aux chevaliers blancs, ceux qui parlent d'argent et qui disent qu'il faut faire attention.
Exactement.
On embrasse François Fillon. Deuxième question, Clémentine, c'est pour vous. Lors d'une fouille à Pompéi, qui n'est pas une contrepétrie, on a trouvé un fast-food. Vrai ou faux?
Oui, bien sûr, on n'a pas trouvé qu'un fast-food, on en a trouvé de très nombreux, puisque pratiquement tous les estaminets pompéiens étaient des fast-foods.
Question trop facile pour Clémentine, je vous demande le nom de ces fast-foods.
Ah, le nom des fast-foods.
Mais je rajoute un degré de difficulté. C'est tout ce que je fais pour vous, Stéphane.
Oui. Alors là... Oui. Comment s'appellent les staminets pompéiens où on sert du garum, du poisson?
Voilà.
Ah oui, c'est ça, mais vous êtes historienne, Clémentine. Oui.
Alors, je vous donne un autre indice.
Oh, c'est ça, un bourre-pif en pleine fête, alors que moi, j'arrête pas de l'aider.
Non.
C'est dégueulasse.
Non. Il est odieux. Alors, je vous donne un indice. C'est la combinaison de deux mots latins, vendre et chaud.
Chaud. Alors, c'est le caldarium, ça doit être caldo quelque chose. Et comment dit-on vendre en latin? Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est autour du mot commerce, vendéré?
Moi aussi, j'aurais dit vendéré, Clémentine. C'est une mauvaise réponse.
Alors, qu'est-ce que c'était?
Ça s'appelait les thermopolium, thermos, chaud, d'accord. Et poléo. vendre.
Mais oui, non. Oh non, mais alors.
Ah, ben
non.
Si, l'endroit a été subitement enseveli en l'an 79 par l'éruption du Vésuve. On n'y servait pas des burgers et des frites, mais des lentilles, de la viande et du vin chaud dans des jarres. Ils savaient vivre à l'époque.
Ah non, mais je rêve.
Nous avons
alors,
deux.
Alors là, mais je ne vous aiderai plus jamais, Stéphane. Là, c'est terminé. Vous avez bien regardé là. Vous pouvez crever avec vos questions sur le clapet anal du mammouth. Vous n'aurez plus jamais mon aide. Là, et le coussin péteur d'Elio Gabbana. Voilà, c'est ça. Ah, ouais, ouais.
Alors, vous riez, mais deux mauvaises réponses. Nos auditeurs sont en train de se demander si on y connaît vraiment quelque chose en histoire.
Rien.
Stéphane, Chopin était taphophobe. Il avait peur d'être enterré vivant. Oh, bon, vrai ou faux?
Oh, bien sûr.
Mais ne dites pas la réponse.
Il a demandé qu'on pratique l'exérèse de son cœur. Mais bien sûr, c'est bien connu,
Stéphane,
ça.
Stéphane, vous le saviez, évidemment. C'est une bonne réponse de Stéphane Bern. Quand le père de Chopin meurt, il a 34 ans, il demande d'être ouvert avant l'inhumation pour être sûr de ne pas se réveiller dans sa tombe. Un épisode qui a choqué le pianiste franco-polonais. Il a eu la même angoisse jusqu'à la fin de sa vie. Et on le comprend.
Et c'est pour ça que son cœur est à Varsovie.
Le cœur de Chopin,
bien sûr. Mais oui.
Est-ce que le cœur de Voltaire est toujours à Ferney-Voltaire?
Le cœur de Voltaire n'est plus à Ferney-Voltaire. Il est le cœur d'une statue de Voltaire par Houdon qui est à la bibliothèque Richelieu, la bibliothèque nationale.
C'est vraiment dommage que cette question compte pas dans le quiz. Hein. C'est une question comme ça qui est en
plus. Je peux avoir un petit bonus, l'autre, parce que là, le trait de Ganelon.
Pour l'instant, c'est Stéphane Bern qui mène le quiz. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Qui est le plus suivi sur le réseau social Instagram? Le prince Charles ou Nabila?
C'est une question d'histoire.
Question vraiment d'histoire pure et dure, je dirais, pour les puristes.
Eh bien, écoutez, moi, j'ose espérer vraiment
que
c'est le prince Charles, parce que sinon, vraiment, Rome n'est plus dans Rome et c'est une époque à laquelle je ne souhaite plus appartenir. Ça va sans doute être Nabila, mais je réponds le prince Charles en étant tout à fait déprimé par cette question.
Attention, vos cœurs vont saigner. C'est Nabila qui a plus de followers sur les réseaux sociaux. 1 200 000 abonnés pour son Altesse Royale, le Prince Charles, et plus de 6 millions pour Nabila. C'est donc Stéphane Bern qui remporte le quiz. C'est Stéphane Bern qui crée l'événement ces derniers jours, on peut le dire. C'est une remontada, Stéphane.
Oui, mais la différence, c'est Clémentine est une véritable historienne, ce que je ne suis pas. Donc il faut quand même rendre hommage à Clémentine.
C'est pour ça que moi je sais tout, du cousin d'Eliot Ness. Vous savez, ça, c'est mon truc. Hein. Oui.
Il a en plus la classe, il ajoute la classe.
Non, il n'a pas du tout la classe, là. Bon. Il est là, il jubile, il est proche de l'épectase, on dirait Sainte-Thérèse de Lisieux, là, il a gagné son quiz. Moi, je m'en vais.
Clémentine quitte le studio, visiblement en furie. Peut-être à demain, Clémentine, on l'espère, et bravo quand même.
<rire> 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Pas vrai, Mathieu?
Je vous le confirme, Stéphanie, si on pratique l'histoire sans chichi, en s'intéressant à toutes ses dimensions, y compris, aujourd'hui on peut le dire, aux losers de l'histoire, à tous ceux qui ont fini deuxième et qui l'ont parfois mal vécu.
Comment il a dit là? C'est pas possible, il y a une erreur. Allez, venez avec moi, on va voir les juges.
Non.
C'est vrai que c'est agaçant de terminer deuxième quand on est persuadé d'être le meilleur. C'est ce qui est arrivé, voyez-vous, à Buzz Aldrin. C'était le plus capé des astronautes de son temps, mais la NASA a décidé que ce serait Armstrong qui marcherait en premier sur la Lune. Je vais vous raconter l'histoire du premier deuxième de l'espace. Quant à vous, Mathieu, vous nous avez trouvé un deuxième un peu plus récent.
Oui, Stéphane, c'est vrai qu'il est désormais deuxième, mais croyez-moi, on est nombreux à rêver d'être deuxième comme lui. Tout à l'heure, je vous parle de Bill Gates, deuxième fortune mondiale selon le magazine Forbes.
Votre chronique, évidemment, s'intitule 99% vrai. Bon, vous voulez connaître le programme de la deuxième?
J'aimerais bien que vous nous le donniez.
On boit chaque jour ses paroles, et pas que ses paroles.
Je vois de qui vous
aujourd'hui, parlez. Encore un peu plus que d'habitude, puisqu'il nous raconte, Olivier Pouls, l'histoire d'un vin pas comme les autres. Le château neuf du pape.
Amen.
Ah, pas mal. Et vous, Mathieu, vous aurez peut-être enfin une occasion de vous la ramener. Parce que, en fin d'émission, vous saurez enfin pourquoi on dit parler la langue de bois.
Ça, je le sais déjà, j'ai bossé avec Michel Drucker.
Ah non, lui, il fait pas ça, si.
Michel, il s'est manié la langue de bois quand même.
Ah oui?
Oui, je trouve. On l'embrasse quand même.
On l'embrasse.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Ils sont arrivés Deuxième, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. Après avoir découvert comment Graham Bell n'avait pas inventé le téléphone, invention qu'on doit à un Italien avant lui, nous allons à présent évoquer une figure emblématique du deuxième. Buzz Aldrin a été le deuxième homme à marcher sur la Lune, juste après Neil Armstrong. Selon les enregistrements du module lunaire, ça a d'ailleurs été chaud hein, entre les deux hommes au moment de décider qui descendrait Prums. Finalement, Armstrong est descendu d'abord. Stéphane Bern nous raconte l'histoire du premier deuxième de l'espace, Buzz Aldrin.
Historiquement vôtre. Le récit.
Finir deuxième sur deux d'un quiz, c'est déjà pénible. Alors, imaginez ce qu'on ressent lorsqu'on participe à la plus grande aventure de l'histoire de l'humanité et qu'on finit deuxième. C'est donc ce qui est arrivé il y a à peine plus de 50 ans à Buzz Aldrin, de son vrai nom Edwin Eugene Aldrin Jr. Buzz, c'est le surnom que lui a donné sa petite sœur. Elle n'arrivait pas à articuler le mot « brother » et prononçait « buzzer », vite raccourci en « buzz ». Buzz est donc l'un des trois astronautes de la mission Apollo 11 qui a emmené l'homme sur la Lune pour la première fois le 21 juillet 1969. Pour lui, qui entame sa carrière dans l'US Air Force au début des années 50, l'aventure spatiale commence dans les années 60 lorsqu'il intègre le programme de vols habités de la NASA, Gemini. En 1966, il est le premier être humain à passer plus de deux heures dans le vide spatial. Cet exploit lui permet d'être retenu pour Apollo 11, la mission vers la Lune.
Bah, au moins, il aurait été premier quelque part, c'est déjà ça.
Le 16 juillet 1969, Buzz Aldrin fait partie de l'équipage qui décolle de Cap Canaveral sur la côte est de la Floride avec Michael Collins et Neil Armstrong à son bord. Les choses sont claires dès le début. C'est Neil Armstrong qui doit le premier poser le pied sur la Lune.
Déjà ça, je ne savais pas. Moi, j'avais lu une histoire comme quoi c'était Buzz Aldrin qui devait être le premier et qu'ils ont changé au dernier moment pour mettre le plus jeune.
Alors, en fait, il y a de vraies raisons, Mathieu. D'abord, Neil Armstrong est le commandant de la mission. Ensuite, ce n'est pas à l'inverse d'Aldrin un militaire mais un civil. Il y a là donc tout un symbole. Mais la vraie raison, c'est aussi que c'est lui qui est le plus près de la porte.
Mais non, c'est pas ça. Stéphane, vous avez bien préparé cette émission.
Le
Stéphane.
20 juillet 1969.
Et l'autre était près des toilettes, c'est ça?
À 20h17 et 40 secondes. Après 73 heures de voyage dans l'espace, le module lunaire se pose à la surface de la Lune. Et vous savez ce qui en sort en premier du module, Mathieu ?
Ah bah, Neil Armstrong, Stéphane, vous ne m'aurez pas là-dessus. Hein.
Bah, pas du tout.
Comment ?
La première chose qui a touché le sol lunaire, c'est un sac rempli de couches sales.
De
parce
couches ?
Que, je vous passe les détails, mais il n'y avait pas de toilette à bord d'Apollo.
Ah, ils portaient des couches, les mecs ?
Ah oui.
Ah oui,
le 21 juillet 1969, à 3h56 heure française, Neil Armstrong fait ce fameux petit pas pour l'homme, ce pas de géant pour l'humanité. Un événement suivi en direct sur Europe 1 à l'époque. On écoute.
Je suis sur le bas de l'échelle, à un pas du sol maintenant. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité.
Et là, c'est un moment où tout le monde kiffe sur la Terre entière à regarder ça en direct ou à l'écouter sur Europe 1. Mais il y a un mec qui l'a mauvaise, j'imagine, c'est Buzz Aldrin qui doit se dire « j'aurais pu être le premier ».
Mais oui, il est le second et de 19 minutes exactement. Sa réaction est moins restée dans l'histoire que la phrase d'Armstrong, mais elle a quelque chose d'étrangement triste et beau à la fois. Pour décrire la surface de la Lune, grise, morte et pâle, il a ces mots. C'est magnifique, oui, mais c'est une magnifique désolation. Et puis, si Buzz n'est pas le tout premier homme sur la Lune, ça ne l'a pas empêché d'y réaliser un certain nombre de grandes premières. Et c'est notamment le premier à y célébrer une cérémonie religieuse.
Il a fait une messe sur la Lune ?
Eh oui. La première nourriture qu'un être humain a mangée sur la Lune, c'est une hostie, avec un petit coup de rouge.
Stéphane, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Figurez-vous que Buzz Aldrin était un des diacres de son église presbytérienne. Et son pasteur l'avait autorisé à célébrer une cérémonie religieuse à la surface de la Lune, ce qu'il a fait en rompant le pain et en versant le vin. La NASA a longtemps gardé le secret de cette histoire pour ne pas être accusée de transformer un événement aussi incroyable qui s'inscrit dans la conquête de l'espace en message religieux. Mais dans la catégorie des grandes premières, Buzz Aldrin n'a pas fait que célébrer une messe. C'est aussi le premier qui a fait pipi sur la Lune.
Non, mais si on m'avait dit qu'un jour, je raconterais ça à la radio. Oui.
C'est magnifique.
Mais dans sa combinaison, en réalité.
C'est dommage, ça aurait été vraiment beaucoup plus drôle de le faire vraiment à la surface de la Lune. Ça devait partir dans tous les sens.
Après avoir passé 2h30 à sauter partout dans son scaphandre, eh bien, il avait pipi dans sa combi. Buzz Aldrin est aussi le premier à décrire une chose à laquelle on n'aurait pas forcément pensé.
Et quoi donc ? Il a fait la grosse commission aussi. Racontez-nous plus de détails, Stéphane.
Ça sent quoi, la Lune ? Eh bien, vous verrez ça. Et vous sentirez surtout dans un instant.
On sentira.
Le temps que je reprenne mes esprits.
Oui, reprenons bien nos esprits, Stéphane. Ça nous fera du bien.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Historiquement vôtre continue chaque jour. Trois personnages pour une thématique. Aujourd'hui, ils sont arrivés deuxième, mais ça va, ils le vivent bien. Parmi les plus célèbres deuxièmes de l'histoire, le cosmonaute Buzz Aldrin, qui, s'il avait été le premier à marcher sur la Lune, aurait déclaré, il avait préparé la phrase
« Vers l'infini et au-delà !»
Heureusement, c'est Armstrong qui a été choisi. Mais poursuivez votre récit passionnant, Stéphane, puisqu'il était question du premier pipi lunaire, finalement, de l'histoire.
Oui, cette histoire est lunaire, vous avez raison de le rappeler, Mathieu. Une fois revenu dans le module qu'il a conduit avec ses deux coéquipiers ici, après 2h36 minutes et 40 secondes exactement passées sur la Lune, Buzz Aldrin remarque que son scaphandre est couvert d'une poussière grise, une poussière de Lune qui ressemble beaucoup à de la poudre à canon. Pour la décrire aux ingénieurs de la NASA, Aldrin explique que ça sent la cendre, un peu comme du charbon brûlé quand on vient de l'arroser pour l'éteindre. En tout cas, tout ça n'a pas empêché Buzz Aldrin et les autres de revenir sains et saufs sur la Terre. Et là, c'est comme pour tous les touristes, les trois hommes doivent passer par la douane, en l'occurrence celle de Hawaï. Dans la case « lieu de départ », ils écrivent sagement qu'ils sont partis de la Lune, avant de préciser qu'ils ont 28 kilos de roches et de poussière lunaire à déclarer. La suite est un peu moins joyeuse. Buzz Aldrin est passé par des moments difficiles. Il est tombé un moment dans la dépression et l'alcool avant de s'en sortir et de battre encore quelques records. Encore récemment, en 2016, à 86 ans, il a visité une base polaire, ce qui a fait de lui la personne la plus âgée à avoir atteint le pôle Sud.
Ben voilà, il est premier.
Et l'astronaute a toujours bon pied bon œil. Si Neil Armstrong a rejoint les étoiles en 2012, Aldrin, lui, continue à 90 ans passés à militer pour l'organisation d'un voyage vers Mars. Mais surtout, Buzz Aldrin est une référence dans la culture populaire. Il a joué son propre rôle dans Les Simpsons, dans un des films de la série Transformers. Il a même tourné un clip avec le rappeur Snoop Dogg.
I tell a story about my time on the moon now. The sky was black even though the sun shined.
Sacré flow, hein, le Buzz.
Mais surtout, Buzz a donné son nom à un personnage que tout le monde connaît.
Oui.
L'excellent Buzz l'éclair, le héros de la série des films d'animation Toy Story. Et ça, Neil Armstrong, il a peut-être été le premier à marcher sur la Lune, mais il ne peut pas en dire autant.
Et toc !
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Buzz Aldrin, nous sommes en ligne avec l'espace, en tout cas avec un homme qui y a été, mais qui est redescendu depuis. Bonjour Jean-François Clairvoy.
Bonjour.
Vous êtes astronaute, vous avez effectué trois missions spatiales, vous êtes l'auteur notamment d'Histoire de la conquête spatiale avec Franck Lehaut, réédité et réactualisé l'année dernière à l'occasion des 50 ans de la mission Apollo 11 aux éditions de Bock.
Alors cette mission vous a marqué comme elle a marqué le monde entier. Je crois que vous aviez 10 ans et demi lorsque l'homme a marché sur la Lune pour la première fois. Vos parents vous ont vraiment réveillé en pleine nuit pour que vous puissiez voir cet événement. Quels souvenirs vous en gardez ? Est-ce que ça a été aussi un déclic pour votre carrière ?
Alors, ça m'a donné envie d'aller dans l'espace, mais pas d'être astronaute, qui est un métier. Mais ce que je réalisais, je me souviens à 10 ans et demi, en voyant ces images, en voyant dans une lucarne le portrait du président qui tient le téléphone et qui parle à ceux qui sont sur l'écran principal en train de marcher sur la Lune, je trouvais ça dingue que quelqu'un de la Terre puisse parler comme ça, tenir une conversation avec des humains comme nous, mais qui sont à 400 000 km sur la Lune. Et je trouvais ça incroyable. Je me disais, l'être humain est capable de prouesses incroyables.
Qui a décidé qui serait le premier dans cette mission Apollo 11 à poser le pied sur le sol lunaire ? Il paraît que Buzz Aldrin avait fait du lobbying pour essayer d'être le premier.
Oui, effectivement. Il considérait qu'il était le mieux placé sur le plan intellectuel avec ses connaissances d'ingénierie astronautique du rendez-vous spatial. Mais comme l'a très bien expliqué Stéphane, c'est une question de rotation. À ce moment-là, c'était à Neil d'être commandant de bord. le camembert dans sa position de pilote du module lunaire est le plus proche de la porte.
Ah, donc c'est vrai, ça.
Il est civil. Mais c'est pas une décision d'une personne qui a dit je veux un tel ou pas un tel.
Ouais.
Mais, et puis en plus, il y a eu un concours de circonstances avec des accidents d'équipage précédent qui ont fait que sans cet accident, ça n'aurait pas été autour de Buzz et Neil de faire cette mission-là. Donc c'est tombé sur eux aussi, un peu par hasard au dernier moment.
Et qu'est-ce que vous pensez, Jean-François, de la réaction de Buzz Aldrin? C'est merveilleux, une désolation magnifique. Il est à la fois heureux, mais un peu déçu de ce qu'il voit.
Non, mais je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire que même un désert, même un spectacle naturel où il n'y a rien de contrasté, de coloré, peut être très beau. Très beau parce que ça met en valeur la capacité de l'homme à maîtriser des techniques très difficiles. Et le mot « magnificent » est très positif. Mais c'est vrai que c'est désolé. Le fait que c'est désolé, c'est juste la vérité pratique. Donc associer un adjectif d'émerveillement avec un mot qui décrit ce qu'il voit, je pense que c'est juste, c'est parfaitement juste en fait comme expression. Mm-hmm.
Vous l'avez rencontré, Buzz Aldrin, déjà ?
Oh oui, je le vois une fois par an en moyenne, parfois un peu plus. Il aime bien l'Europe. Il participe à nos réunions d'astronautes. Il était à Houston l'année dernière pour notre congrès annuel de tous les astronautes mondiaux qui se réunissent régulièrement. Et bien sûr, à chaque fois, on lui pose des questions, toujours les mêmes questions, mais il répond toujours avec...
C'est quoi ? C'est quoi les questions que vous posez, vous, en tant que vous êtes un pro comme lui ? Vous lui posez quoi comme question à Buzz Aldrin ?
La dernière fois que je l'ai vu, il portait la montre que j'ai inventée, qui est la montre officielle dans l'ISS aujourd'hui. Et je lui ai demandé, mais pourquoi il portait ma montre? Et ben, il m'a dit qu'il l'adorait. Et bien sûr, on parle aussi de son cycleur. Le cycleur, c'est le terme qu'on donne à un type de trajectoire de transfert Terre-Mars et Mars-Terre qui optimise la durée de l'aller-retour. Et Buzz, depuis très longtemps, depuis en fait son doctorat, donc ça, on l'a pas dit, mais c'est le premier astronaute à avoir un doctorat. Et il a dû faire le choix entre suivre la formation de pilote d'essai ou un doctorat en astronautique, en ingénierie astronautique. Il a choisi le doctorat, mais ça reste un regret pour lui de ne pas avoir été pilote d'essai. D'ailleurs, il a été refusé lors de la sélection de 1962, la précédente, parce qu'il n'était pas pilote d'essai. Mais en 1963, à cause de sa thèse, et on avait besoin de sa thèse pour réussir le programme Apollo, il a été sélectionné. Et donc, on parle bien sûr de rendez-vous dans l'espace. On l'appelait d'ailleurs docteur rendez-vous. C'est le monsieur qui maîtrisait le rendez-vous spatial, qui est très difficile puisque vous décollez sur Terre pour rejoindre un vaisseau qui est déjà à 28 000 km à l'heure dans l'espace. Donc, faut pas se tromper parce que une seconde d'erreur, c'est 8 km d'erreur. Voilà. Et Buzz a inventé les bases du rendez-vous spatial dont j'ai bénéficié trois fois lors de mes trois missions.
Mais en réalité, derrière les portraits idylliques qui sont dressés sur Buzz Aldrin, c'était pas un personnage extrêmement sympathique. Moi, j'ai rencontré, il était peut-être frustré de ne pas avoir été le premier, je ne sais pas. Mais il allait beaucoup dans les soirées mondaines, il se faisait payer et il buvait beaucoup. Ça, je m'en souviens. Oui, vous n'avez pas ce genre d'expérience?
Il est passé par des périodes de dépression, mais après, il en est sorti. D'ailleurs, il s'en cache pas, il a écrit un livre là-dessus. Mais il est quand même devenu directeur de l'école des pilotes d'essai de l'armée de l'air. Alors, c'est vrai que les questions qui lui reviennent systématiquement les plus souvent, il en a marre. Donc, quand il répond, il est un peu désagréable. Mais il est intéressant. Et il a une verve, il parle. Je me souviens, j'étais à un repas avec le prince Albert de Monaco, avec le directeur de la NASA à Monaco. Et on n'arrivait pas à arrêter Buzz. À un moment donné, le patron de la NASA s'est levé et a appuyé comme sur un bouton en disant « Buzz, time out, ça suffit ». Mais parce qu'il est passionné, il est passionnant quand il parle.
Il est comme vous, passionné et passionnant, Jean-François Clairvoyt. Pour finir, d'un mot, d'une petite phrase, à quoi ça a servi d'aller sur la Lune? À part nous faire tous rêver, est-ce que ça a eu des conséquences concrètes pour la science, pour l'humanité?
Alors, il y a deux types de conséquences. Il y a les matériels. Ils ont ramené des roches lunaires qui ont permis d'affiner le modèle qui décrit la création de la Lune. C'est un morceau de terre qui a été arraché par un énorme astéroïde. Mais sur le plan immatériel, il a boosté, mais de façon incroyable, le nombre de jeunes qui ont choisi les sciences dans leurs études. C'est un pic avec un pic de doctorat. Le programme Apollo a forcé la NASA à inventer les techniques de gestion de grands programmes qui sont les techniques utilisées aujourd'hui aussi bien pour Ariane, Concorde que pour le pont de Millau, par exemple. Et puis, il nous a permis de créer un engouement à l'échelle mondiale, et maintenant on y va ensemble. C'est-à-dire que les programmes spatiaux de grande envergure sont des programmes en coopération internationale, Et ce sont les seuls, d'ailleurs, qui réunissent les grandes puissances qui, sur Terre, se font des embargos, des guerres économiques, etc.
Non, c'est passionnant. En tout cas, merci Jean-François Clairvoy. C'était, on a eu un privilège de parler avec vous sur Europe 1. Pour ceux qui veulent revivre cette formidable odyssée du premier homme et du deuxième aussi, puis du troisième, parce qu'on a complètement oublié le troisième.
Michael Collins.
Oui, et qui a posé le pied sur la Lune. Vous pouvez écouter 3h56, un podcast de 15 épisodes d'Europe 1 Studio sur toutes les plateformes audio et sur le site Europe1.fr. Merci beaucoup Jean-François Clairvoy.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ils ne sont que deuxièmes, mais on les aime quand même.
Oui.
C'est le thème d'Historiquement vôtre cet après-midi. Après avoir évoqué Graham Bell, qui a quand même piqué l'invention du téléphone.
Le salaud, on peut le dire.
Buzz Aldrin, qui a posé, qui est le deuxième et la seule chose qui est faite, c'est de pisser dans son scaphandre.
Oui, c'est votre résumé, un peu votre biographie, un peu sommaire.
Vous,
de votre
Mathieu, vous vous attaquez à présent à un troisième, deuxième, plus proche de nous pour un portrait, comme d'habitude, à 99% vrai.
Oui, Stéphane, et je le précise d'emblée, ce portrait de Bill Gates, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un portrait de commande, en fait. C'est vous qui me l'avez demandé, le jour où, en feuilletant la dernière édition du magazine Forbes, vous avez constaté, non sans effroi, que vous ne figuriez pas dans le classement des 100 personnalités les plus riches du monde.
Oh my God!
Vous êtes-vous exclamé avant de choir la tête de la première dans vos tagliatelles à la suite.
Non, ouais.
Le lendemain,
mais quelle image,
le lendemain, vous me commandiez un portrait de Bill Gates pour, je vous cite, comprendre comment faire pour devenir fils à l'homme le plus riche du monde, car visiter vous le vicomte avec les caméras de France 3, c'est sympa, mais l'acheter, ça serait quand même mieux. Ce à quoi je vous ai sèchement répondu, Stéphane, allez vous faire Bezos. Et oui, Stéphane, Bill Gates n'est plus l'homme le plus riche du monde. Il s'est fait doubler par Jeff, le fondateur d'Amazon. Il n'est plus que deuxième. Seulement 105 milliards de dollars sur son livret A, contre 112 pour Bezos. Tragique déclassement social. On les voit d'ici, les Gates déchus, dînant d'un bouillon de vermicelle Knorr dans une kitchenette so-cook, regroupés autour du poêle depuis qu'on leur a coupé le gaz.
Oh non.
Bah non, Stéphane, je sais que ça peut vous paraître un peu chiche, mais en fait, on peut vivre avec 105 milliards. Mais c'est vrai que dans la micro-caste des milliardaires, notre Bilou est désormais un peu un loser. Et ça tombe bien car c'est l'objet de ma chronique. Vous démontrez que Bill Gates n'est au fond pas si différent de nous. Cette deuxième place le rend d'ailleurs instantanément plus cool et moins antipathique. En même temps, vous me direz, c'était pas difficile. Car dès son plus jeune âge, Bill Gates est ce que Françoise Dolto appellerait un enfant à haut potentiel frustré. Ce que nous appellerons plus communément un petit con. Excédé, ses parents l'emmènent voir un psy à qui Bill annonce froidement « Je suis en guerre contre mes parents et l'enjeu est de savoir qui a le pouvoir. » 9 ans. Le ton est donné. Heureusement, Bill découvre l'informatique qui est encore assez balbutiement. Et là, alors dans le maniement de l'ordinateur, vous allez voir qu'il progresse assez vite. Année 1, il apprend à jouer au Monopoly. Bon, ça ok. Année 2, il crée un programme capable de prédire le trafic routier de Seattle. On sent que le gamin ne va pas redoubler sa terminale. D'autant qu'à l'âge où les hormones entrent en ébullition et où, dans la moiteur de leur chambre barrée dans le sens interdit, les ados aiment à se donner secrètement du plaisir en pensant fort à Kate Moss ou bien...
Deux jeunes Grecs peu farouches.
Oui, selon les inclinaisons de Dame Nature, il y en a pour tous les goûts. Eh bien, Bill Gates, lui, préfère lire l'Encyclopédie Universalis. C'est à la prestigieuse Lakeside School de Seattle que Bill crée avec son ami Paul Allen son tout premier programme informatique, un jeu de morpion.
Bon, incroyable.
On est d'accord, Stéphane, c'est nul. C'est ridicule, un jeu de morpion. Quel loser, ce Bill. Bon, 5 ans plus tard, il crée Microsoft. Ok. Mais n'a-t-on pas un peu exagéré le succès de cette entreprise qui entre en bourse en 96, faisant de notre Billou l'homme le plus riche du monde? Clairement. Car au fond, Windows de Microsoft, c'est juste une nouvelle forme de pointage en entreprise. Grâce à ce son, votre boss sait que vous êtes arrivé. Et puis grâce à celui-là, il sait que vous vous êtes cassé plus tôt pour aller vous murger à l'Happy Hour avec Corinne de la Compta. Voilà un vulgaire système de pointage. En somme, Bill est comme nous, un type qui met en pratique des idées simples. Comme nous aussi, Bill surveille ses collègues. Au début de Microsoft, il mémorise les plaques d'immatriculation de tous ses employés, puis fait des rondes sur le parking afin de checker leurs allées et venues. Type normal, quoi.
Non, oui. Un malade.
Et humain. Tellement humain, Stéphane. En 94, il fait un énorme doigt d'honneur au concept du No Job in Job et épouse Melinda French, responsable marketing chez Microsoft. Concept du No Job in Job qui fait néanmoins partie des valeurs centrales d'Europe 1, je le rappelle à Stéphane, dont les allusions ne sont pas toujours des plus fines avec nos stagiaires.
C'est même meilleur le lendemain.
Non, 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 ni le lendemain, ni la veille, ni jamais,
non,
Stéphane.
Ça, c'est le veau maringot.
Non, non, non. Ah, oui,
vous réutilisez les vieilles
et les stagiaires. Ce n'est pas de cette facette-là de Bill qu'il faut vous inspirer, mais de son altruisme.
Bill, comme Michael Jackson avant lui, veut guérir le monde. Dès les années 2000, il s'éloigne peu à peu de Microsoft pour se consacrer à sa fondation Bill et Melinda Gates, à travers laquelle il devient l'un des plus gros donateurs contre la pauvreté dans le monde. Et pas que, il s'engage aussi. Vous, par exemple, vous allez faire vos courses au G20. Lui, il va au vrai G20 pour taper du poing sur la table et demander aux pays riches plus de blé pour les pauvres. Cohérent jusqu'au bout, y compris pour lui et les siens, il déclare ne vouloir laisser que 10 millions de dollars à chacun de ses enfants. L'un d'entre eux, outré, lui aurait d'ailleurs lancé
« Fais pas ton daron !»
Mais c'est comme ça, papounet a tranché, je ne leur rendrai pas service en leur laissant trop. Et c'est vrai que 10 millions de dollars, c'est pas trop, tout en restant correct quand même niveau argent de poche. Forcément, une telle réussite doublée d'une telle omniprésence dans notre vie suscite des critiques, voire des théories du complot. Certains vont même jusqu'à lui attribuer récemment l'apparition de la Covid-19. Il aurait lancé la pandémie, planifié la vaccination mondiale, afin d'organiser discrétos un puçage des êtres humains. « Ouais Maurice, ça doit être ça, remets-moi une suze !»« Eh ben moi Stéphane, s'il veut me pucer, que Bill me puce. Je suis sa chose. Ok, il est que le deuxième homme le plus riche du monde. Mais à jamais, il aura mis dans notre vie cette douce mélodie qui annonce à la planète entière que c'est l'heure de l'Happy Hour. Oh, c'est l'heure de l'Happy Hour, Stéphane, bientôt qui s'approche.
Merci Mathieu, c'était à 99% vrai, il y a donc 1% de faux,
comme
si
d'habitude.
J'ai bien compté.
Oui,
alors,
oui.
Qu'est-ce qu'il faut ?
Bah, vous n'avez évidemment jamais proposé quoi que ce soit à nos stagiaires, Stéphane.
Non, bien sûr.
Vous faites des avances qu'aux membres de l'équipe qui ont un CDI. C'est ma pratique. Et elle s'applaudit. Tout à votre honneur.
Il y a pire, à mon avis.
Il n'y a rien d'autre qui est faux.
Avant, tout est vrai.
Tout est vrai.
Il fliquait vraiment.
Il avait mémorisé, parce qu'il avait évidemment une super mémoire, il avait mémorisé les plaques d'immatriculation de ses employés pour pouvoir voir à quelle heure ils partaient, tout ça.
Mais merci beaucoup, c'était passionnant.
S'il nous écoute.
Si.
Bill, si tu veux faire un don à Europe 1,
oui.
On est là.
Ou à nous, direct.
À nous, directement, oui. On va lui envoyer notre RIB.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Stéphane, vous aimez les papes,
oui.
Lui, il aime les châteaux neufs. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Voici Olivier Pouls. Chaque jour, vous nous racontez l'origine insolite d'un plat, d'une recette ou d'un produit. Aujourd'hui, un très beau produit de la gamme des liquides qu'on appelle donc Château Neuf du Pape. Parce que c'était le vin du Pape ?
En quelque sorte. Et je vais vous conter cette histoire de ce qui est probablement l'un des vins français les plus célèbres dans le monde. Très belle appellation. Oui, effectivement, on le doit au Pape. Pas la création de ce vignoble, mais en tout cas résurrection et son dynamisme dans le monde. Et contrairement à ce que me disait tout à l'heure Stéphane, ce n'est pas au pape Clément
V. Je croyais que c'était Clément V.
Eh bien non, parce que Clément V était effectivement le premier pape à s'être installé à Avignon, mais il était itinérant, il n'avait pas fixé encore sa demeure. C'est son successeur, le pape successeur qui était donc Jean XXII qui arrive. Oui. Et oui, Jean XXII lui s'installe réellement à Avignon. Il fait construire une résidence d'été à quelques kilomètres d'Avignon, résidence d'été qui est située dans ce qui est aujourd'hui le village de Châteauneuf-du-Pape. Il y a des vignes autour, mais le vin n'est pas terrible.
Bon.
Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait venir des copains vignerons à lui qu'il connaît, qui sont à Cahors, parce que lui est originaire de Cahors. Et donc, ce sont ces vignerons qui vont arriver, qui vont retravailler le sol, qui vont replanter de la vigne et qui vont redonner naissance à un vignoble qui existait en réalité depuis l'Antiquité.
Mais le cépage, un petit peu tombé. On n'est pas sur Malbec, on est sur de la Syrah.
Non, on est sur différents cépages à l'époque qui sont même probablement encore différents de ceux-là. C'est l'encépagement tel qu'on le connaît va arriver un petit peu plus tard. Parce que là, on est quand même au XIVe siècle. Hein.
C'est vrai que ça remonte un peu.
Mais vous avez l'air de bien vous y connaître, vous, en cépage.
Non, Châteauneuf-du-Pape, oui, il s'y connaît pas mal.
Bien, oui, mais grâce à cette personne qui est là face à vous, Stéphane.
Ah, très bien.
Et donc, le vin est réservé au pape. Lui donne l'appellation, d'ailleurs, vin du pape. Il y a une certaine
réputation. Si on n'est pas pape, on ne peut pas en boire.
Pas tellement, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean XXII, il aime bien vivre. Alors, il fait des énormes fêtes.
Il garde tout pour
que
lui.
Que ce soit dans sa résidence d'été ou alors à Avignon, mais avec tous ses copains. Et il est gros consommateur et de mets et de vin. Et donc, les quelques tonneaux qui, au début, sortent parce qu'il faut relancer la production, il les garde pour lui. Petit à petit, le vignoble grandit. Il y a une certaine réputation qui arrive. Et puis, paf, arrive la crise du phylloxéra au XIXe siècle. Et comme tous les vignobles, le vignoble de Châteauneuf-du-Pape commet un gros coup d'arrêt. Il va redémarrer par la suite. Il va reprendre une grande réputation, à tel point qu'il est terriblement copié. Et le vignoble de Châteauneuf-du-Pape va connaître une deuxième grande date dans son histoire. C'est qu'il sera à l'origine de la création des appellations d'origine contrôlée à l'époque, du fameux Baron le Roi. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ce vin, que tout le monde aime, il se met à être copié partout par des gens qui appellent leur vin Châteauneuf-du-Pape alors qu'ils ne sont pas du tout produits dans la même zone et pas de la même manière. Et donc le Baron le Roi va, dès 1923, poser les premières règles de ce qui va devenir, en 1936, l'appellation d'origine contrôlée. Et Châteauneuf-du-Pape sera d'ailleurs l'une des toutes premières appellations françaises à obtenir cette certification. Et c'est très important parce que ça protège un savoir-faire, ça protège une zone de production et ça protège les gens qui le font. Et là, effectivement, on inscrit les fameux 13 cépages qui constituent Châteauneuf-du-Pape, ce qui est quand même une particularité. Il y a 13 cépages qui sont autorisés dans cette appellation. Il y a une grande diversité de terroirs. Il y a à peu près 3200 hectares aujourd'hui, donc beaucoup d'expressions différentes de Châteauneuf-du-Pape. Mais c'est probablement aujourd'hui l'une des appellations françaises les plus réputées, les plus connues, parce qu'elle est à l'origine aussi de tout ce qui a constitué ensuite notre vignoble moderne. Aujourd'hui, c'est un vin qui a encore une belle réputation. Il y a Châteauneuf-du-Pape très cher et Châteauneuf-du-Pape beaucoup plus abordable, mais c'est jamais très bon marché. En gros, on ne trouvera pas un Châteauneuf-du-Pape aujourd'hui en dessous d'une vingtaine d'euros. Mais ça reste, pour moi, l'un des grands emblèmes des vins du sud de la vallée du Rhône.
Pour nos auditeurs, le meilleur Châteauneuf-du-Pape, le meilleur rapport qualité-prix parmi les Châteauneuf-du-Pape.
Bah, il y en a un certain nombre, c'est difficile. Parmi les très bons, on pourrait citer le Clos des Papes, bien évidemment. Le plus prestigieux aujourd'hui, c'est le Château Rayas, mais malheureusement, les prix ont beaucoup décollé. Et il y a Château Beaucastel, qui est une très belle photographie du Châteauneuf-du-Pape, parce que je crois que c'est le seul aujourd'hui qui est réalisé avec les 13 cépages. Et donc, si on veut vraiment avoir le goût, la panoplie complète,
Verre avec modération,
avec
évidemment.
Beaucoup de modération pour les grandes occasions.
En tout cas, c'est passionnant. Merci Olivier Pouls. On vous retrouve demain, naturellement.
Bien sûr.
On parlera peut-être de solide après
de
les
solide,
liquides.
C'est sûr.
La fin justifiant les moyens. Autant vous dire que la chronique de Stéphane Bern qui conclut l'émission est très très bien payée. Chaque jour, dans les fins mots de Stéphane, vous découvrez l'origine d'une expression qu'on emploie tous les jours sans savoir forcément comment elle est née. D'où viennent toutes ces expressions à la mort-moelle-neuve?
Tiens, mort-moelle-neuve.
Oui, non.
Expression qui remonte au bas moyen.
Ménagez-vous, c'est juste le teaser.
Ah d'accord.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque après-midi dans Historiquement vôtre, on s'intéresse bien sûr aux histoires des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire, mais aussi à l'histoire des mots. Et je me suis laissé dire, Stéphane, que des mots, vous en connaissiez beaucoup. Et là où nous, pauvres mortels, on les emploie comme ça sans trop savoir d'où ils viennent, vous, Stéphane, vous êtes en mesure de nous expliquer l'origine historique. Vous êtes quand même hyper balèze. On ne s'en rend pas trop compte sur le quiz, mais là, sur cette chronique, vous me bluffez jour après jour. Quelle est l'expression que vous nous expliquez aujourd'hui?
Je ne suis pas très convaincu par votre franchise, monsieur. Pour tout dire, j'ai même l'impression que vous maniez la langue de bois.
Oh non.
La langue de bois, tiens. D'où vient cette expression qui désigne, vous savez, ce moment où une personnalité politique ou non ne peut pas faire autre chose qu'enchaîner des banalités ou pire, mentir, parce que jouer franc jeu devient pour lui totalement impossible.
Bon, Stéphane, en tout cas, force est de constater que depuis que nous collaborons ensemble, des synergies se sont mises en place. Nous avons su faire de nos différences des qualités et miser sur un concept fort, novateur et fédérateur.
Bravo Mathieu. Ça, c'est un très bel exemple de langue de bois. D'abord, langue de bois, c'est un oxymore. Deux termes dont le sens s'oppose. L'agilité de la langue et la rigidité du bois. C'est une expression qui est née au milieu du XXe siècle, que l'on doit à l'origine au discours officiel soviétique. Oui, et souvenez-vous, vous vous souvenez de Solidarność en Pologne. Eh bien, on parlait d'une langue figée. Les Russes eux-mêmes parlaient de langue de chêne, pour qualifier leur propre bureaucratie. Et en Chine, on parle de langue de plomb. En Allemagne, c'est même une langue de béton. Nos humoristes les plus taquins se sont à une époque moqués de Jack Lang, qui lui pratiquait la langue de Blois, la ville dont il a été maire pendant 11 ans.
C'est très amusant, Stéphane. Une petite citation encore plus amusante pour finir en feu d'artifice.
Oui, avec plaisir. Ce bon mot de l'excellent Jean-Michel Ribes. Langue de bois, langue écologique qui ne pollue pas la pensée dans la mesure où elle n'en contient pas.
On est bien là. La sagacité de Jean-Michel Ribes. Historiquement vôtre touche à sa fin, les amis. Encore un fabuleux voyage dans le temps avec vous, Stéphane. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui dans cette émission? On en a pris des choses, entre le pipi de Buzz Aldrin...
Alors, bon, le terrible destin de Monsieur Antonio Meucci.
Ah, vous l'avez encore là.
Oui, parce que Meucci, franchement, j'ai beaucoup de sympathie et d'affection pour lui. Il méritait mieux. Et Belle, vraiment, il n'était pas belle.
Hein. C'était pas très joli. On rappelle, pour ceux qui arriveraient comme ça fortuitement dans l'émission, que Graham Bell, l'inventeur du téléphone, n'est pas vraiment l'inventeur du téléphone.
Exactement.
Ce Meucci,
il a tout piqué à Antonio Meucci, un Italien.
Il avait un coup d'avance, mais pas d'argent pour déposer le brevet.
Même chose, notre ami Buzz Aldrin, dont je vous ai raconté le destin, qui a mis les pieds le deuxième derrière Neil Armstrong sur la Lune. Il n'a pas fait que des choses formidables sur la Lune. Il a commencé par faire... La première chose qu'il a mangé, c'est une hostie. Et ensuite, il a pissé. Il est resté dans l'histoire.
C'est un beau résumé.
C'est un beau résumé.
C'est ce qu'il faut retenir de l'émission.
16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, ça se termine.
Non.
Mais si.
Non, je suis con. On peut pas déborder un peu ?
Mais non, Mathieu, je vous en prie, soyons raisonnables.
Bon.
Et parlons plutôt de ce qui nous attend demain.
Bon.
Demain, dès 16h, l'histoire, la grande, la petite, la moyenne, revient. On vous raconte les destins de trois nouveaux personnages de l'histoire qui n'auraient jamais dû se croiser. Mais ça, c'était avant. La preuve, Louise de Lavallière, Thérèse de Lisieux et Kanye West sont réunis par un seul point commun. Vous savez quoi ?
Non.
Une chanson de Philly Winter.
Dieu leur a donné la foi.
Exactement.
Ah, ça sera clairement le document le plus renseigné sur Dieu.
Juste après la Bible.
Juste après la Bible, s'entend évidemment. Saint Berne, je vous dis à demain.
Je vous bénis, Mathieu. À demain, c'est à Saint Mathieu. Bon.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.